C'est la classe. Une émission réalisée par les écoliers de Suisse romande. Un projet de Florence Farion et Tania Chitil.
Et c'est comme ça tous les jours jusqu'à 17h, les écoliers de Suisse romande viennent nous parler de leur monde. Chaque classe choisit son thème. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une classe de Payerne. Luciana, tu as 12 ans et c'est toi qui seras notre animatrice. Bienvenue Luciana.
Oui, bonjour. Bienvenue dans C'est la classe. Je m'appelle Luciana, j'ai 12 ans et je serai votre animatrice. Je fais partie de la classe 8PR3 à Payerne dans le canton de Vaud.
Vous avez choisi un thème, Luciana.
Oui, nous avons choisi la discrimination car nous trouvons cela intéressant et que dans les cours, on voit qu'il y a beaucoup de discrimination dans le monde et qu'en choisissant ce thème, nous aurions beaucoup d'outils pour mieux vivre ensemble et pour régler des petits conflits. Nous, comme discrimination, nous avons choisi les origines, la religion, le genre, l'handicap et les hobbies.
Et c'est un sujet difficile.
Oui.
Et pour vous aider à répondre à bon nombre de questions que vous vous posez, on a un invité, est-ce que tu veux nous le présenter?
Oui, il s'appelle Ninian Hubert Van Biesenberg. Bonjour, merci
Bonjour.
D'être avec nous.
Avec plaisir.
Est-ce que je peux vous appeler Ninian Hubert?
Vous pouvez m'appeler Ninian Hubert, enfin vous tous.
C'est plus simple hein, quand
Bien
même.
Bien sûr.
Alors, Ninian Hubert est anthropologue et didacticien. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est ce métier?
Alors, anthropologue, d'une part, c'est quelqu'un qui s'intéresse à notre propre espèce, à l'espèce humaine, et ça sous toutes les coutures, à la fois le côté biologique, mais aussi le côté culturel, le côté social nous intéresse. Et didacticien, bon, en fait, c'est une spécialité qui consiste à réfléchir à la manière dont on peut enseigner les choses. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un jour, on enseigne l'anthropologie à l'école.
Ah voilà, donc ça tombe bien. Didacticien, c'est pas un spécialiste en dictée, si jamais. Vous avez d'autres questions, Luciana?
Oui.
Vas-y.
Que trouvez-vous d'intéressant dans ce travail?
Ah ben, je trouve ça absolument passionnant de réfléchir à nous-mêmes, hein, à d'où nous venons, comment nous fonctionnons, pourquoi justement il y a des discriminations entre les groupes humains ou pas, comment nous nous construisons aussi, c'est quelque chose de très très intéressant, c'est la psychologie du développement, comment un enfant grandit, comment sa tête se remplit d'images, de représentations, tout ça est absolument passionnant, et c'est d'autant plus passionnant que c'est de nous-mêmes qu'on parle, et de vous, et de nous tous. Et je pense que l'objet le plus intéressant à étudier dans le monde, c'est nous-mêmes.
Nous venons dire que la discrimination est difficile à développer. Pourriez-vous nous en dire plus?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est pas tout à fait simple à définir. Mais l'idée de fond, c'est de rejeter quelqu'un sur la base d'un caractère, qu'il soit culturel ou biologique, sur la base de sa couleur de peau, de sa taille, de son poids peut-être aussi, de son sexe, comme ça a été évoqué, mais aussi sur la base de la culture, d'une culture différente, d'une religion différente. On dit qu'ils sont moins bien que moi, et donc pour le coup, je le considère comme inférieur. Et c'est ça la discrimination, c'est de pas parler aux autres au même niveau, de considérer que je suis mieux et que l'autre est moins bien.
Pourquoi les personnes ont l'idée de discriminer une autre?
Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi à la diversité, peut-être parce qu'ils justement ils n'ont pas fait d'anthropologie. Hein. Mais il faut quand même noter une chose, c'est que nous sommes des êtres qui découvrons le monde ou qui regardons le monde avec les yeux. Et donc nous sommes très frappés par des différences qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Si pour la première fois de sa vie on croise quelqu'un qui a une couleur de peau différente de toi, par exemple, tu vas te dire « mais qu'est-ce que c'est que cet individu ?» Puis après, on va évidemment avoir un aspect culturel. Il y a des gens qui vont comprendre que c'est pas parce qu'il a une couleur de peau différente qu'il est fondamentalement différent de moi. Puis d'autres qui vont se dire, ah, mais c'est bizarre cette couleur de peau, ça doit vouloir signifier quelque chose. Peut-être que cet individu n'est pas fait comme moi, fondamentalement. C'est ça qu'on appelle le racisme, considérer les autres comme très différents, en fait.
Kenny, peux-tu nous expliquer pourquoi nous avons choisi ce thème?
On a choisi ce thème parce que notre école est multiculturelle et on n'a que 2 Suisses dans notre classe. Et on voulait savoir s'il y a plus ou moins de discrimination.
Je crois savoir qu'il y a plus de 30 nationalités dans notre école de 400 élèves. Même si on se connaît bien, il y a encore beaucoup trop de stéréotypes, n'est-ce pas Kenny?
En effet, on vit des stéréotypes tous les jours. Est-ce que vous savez ce que c'est un stéréotype? Par exemple, les Allemands boivent de la bière et mangent des saucisses tous les jours. Beaucoup le font, mais pas tous. Eh bien, on en connaît plein des stéréotypes dans la classe.
Bah alors, il y en a un que les Jurassiens, bah, ils sont nés pour boire et sont alcooliques. Et que bah, les Italiens sont nés pour faire des pâtes.
Que les Suisses sont tous riches
et que les Indiens sont tous forcément sales.
Alors moi, je les ai pas inventés, je les ai entendus. Les Africains, c'est des esclaves.
Moi, c'est par rapport à la Suisse, parce que la Suisse, ils mangent toujours du chocolat et moi, j'aime pas trop le chocolat.
Les Anglais boivent du thé tous les jours.
Les Américains, ils ont toujours des armes dans leur sac et ils adorent les armes.
Les Belges sont nés pour manger des frites.
En Bretagne, ils boivent du thé, ils ont de l'accent et ils disent très bizarrement « bouteille d'eau ».
J'ai eu des moqueries, car je suis marocain, j'ai eu des moqueries qui me disaient « Ah non, on n'a pas envie de jouer avec un terroriste, il va tous nous tuer !» Ils étaient en train de courir et tout ça, que j'avais peut-être un pistolet ou des armes. Non, ça m'a pas fait trop mal, ça m'a même pas une égratignure, mais je sais que c'est pas vrai, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est pas ça qui va me changer ma vie et mon moral. Je les ignore, c'est tout. Je continue dans la vie, tout droit.
Bah alors moi, je suis portugaise, et puis on me dit souvent que je suis née pour construire, que je suis faite pour être maçonne. Et une fois, j'étais à un anniversaire, on avait coupé le gâteau, et il y avait comme une espèce de truelle. Et puis, il m'a dit, ah bah, Luciana, c'est parfait pour toi, parce que comme ça, tu peux aller construire avec, et tout, et tout.
Est-ce que ces moqueries t'ont fait mal?
Bah oui, ça m'a quand même blessée, parce que les Portugais sont pas nés pour être maçons ou faire quelque chose dans la construction. Enfin, oui, ça blesse quand même beaucoup si on te critique sur tes origines.
Bah moi, c'est pas trop une moquerie, c'est plutôt une différence. Parce qu'une fois, ma maman, qui est espagnole, a invité plein d'amis de son âge espagnol qui m'ont regardé d'un air bizarre parce que mon père est suisse. Du coup, je ressemblais pas à ma maman, je ressemblais pas à une vraie espagnole. Bah, je suis quand même espagnole, au fond de moi.
Alors moi, vu comme je suis un peu italienne du côté de mon papa, tout le monde me dit « Ah, je coupe les spaghettis, je mets de l'ananas sur la pizza et comme ça ».
Moi, oui, elles m'ont fait mal parce que du côté de mon papa, bah, c'est comme si on se moquait de son origine. Ça fait mal dans le cœur, mais après, on s'en fout un bout d'un moment.
Bah, moi, vu que je suis suisse, quand il y en a qui me disent, bah, vu que t'es suisse, t'es paysanne, t'aimes tous les légumes, des trucs comme ça. Bah, moi, ça m'a pas fait mal, j'ai ignoré, et puis, tous les Suisses sont pas forcément paysans, et puis, bah, par exemple, moi, il y a beaucoup de légumes que j'aime pas, et puis, bah, voilà.
Et vous, monsieur Hubert, que pensez-vous des stéréotypes qui ont été dits?
Eh bien, c'est un peu la base de la discrimination, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence par se faire une idée très simple de la personne qu'on a en face de soi, et on généralise ça à un ensemble d'individus. Et les exemples que vous avez donnés sont très intéressants, parce qu'en fait, ça renvoie à des clichés, stéréotypes, clichés, c'est un peu la même chose qu'on a beaucoup sur les gens. Et si on s'arrête à ces clichés-là, ben évidemment, on commence à créer des fossés entre les groupes de personnes. C'est là où commence le problème en réalité. Je crois que tout le monde fonctionne avec des clichés, sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que c'est un cliché.
Est-ce qu'un stéréotype peut devenir du racisme?
Alors oui, bien sûr, parce qu'à partir de ce stéréotype, on peut développer tout un discours qui va encore accentuer l'idée que les autres sont fondamentalement différents de nous. Et typiquement, c'est quelque chose qui a été fait au cours de l'histoire de l'anthropologie. À un moment donné, on a cherché à identifier les caractéristiques propres à un groupe humain. Et en pensant que ces caractéristiques étaient déterminées par la génétique, par le patrimoine génétique des individus qui faisait qu'ils étaient fondamentalement différents. Et on n'avait pas du tout compris qu'en fait, si les gens sont différents les uns des autres sur les aspects culturels, c'est parce qu'une culture se construit par les autres personnes.
Avec votre nom, on dirait pas que vous êtes suisse. Connaissez-vous des stéréotypes sur votre pays?
Alors d'abord, je suis suisse.
Tu vois le stéréotype.
Mais t'as raison, je suis né néerlandais et je suis arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, comme vous, dans une classe très très multiculturelle, une classe d'accueil d'ailleurs, j'ai commencé par une classe d'accueil. Alors est-ce qu'il y a des stéréotypes sur les Néerlandais? Ben, ils sont radins, par exemple.
Ah ouais, pardon. On dit toujours qu'ils descendent en voiture avec le coffre plein pour pas acheter à manger sur place. Stéréotype, hein?
Tout à fait, stéréotype. Qu'est-ce qu'ils sont encore? Ben, ils adorent les tulipes, bien évidemment. Ils portent des sabots.
Ils font beaucoup de vélos.
Ils font beaucoup de vélos, ça c'est vrai.
Ça c'est vrai.
Hein, si vous roulez à Amsterdam, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vélos d'ailleurs que de voitures. Et on devrait en prendre de la graine, je trouve. Donc oui, il y a des stéréotypes. Est-ce qu'il y en a d'autres ? J'ai pas trop, mais peut-être que ça suffit, non ?
Laetitia, tu as voulu approfondir le sujet et savoir un petit peu plus si notre école rencontrait plus de problèmes à cause de sa multiculturalité.
Oui, il y a vraiment beaucoup de cultures différentes dans notre école. Dans notre classe, il y a plusieurs nationalités, comme par exemple la Roumanie, le Kosovo, le Cap-Vert, l'Espagne, l'Italie, l'Albanie, le Portugal, le Brésil, le Maroc, la Macédoine, l'île Maurice et la Suisse. Je trouve que cela se passe plutôt bien dans notre école.
Justement, il y a quelqu'un à l'école qui s'occupe de toutes ces questions.
Oui, c'est notre médiatrice scolaire, elle s'appelle Madame Corbeau. Et on est allé l'interviewer pour en savoir plus sur les discriminations. Et on l'a demandé si elle pensait qu'il y avait plus ou moins de discrimination dans notre école.
Non, moi je ne pense pas. Nous avons dans notre école des enfants, des familles qui viennent d'horizons très variés et je crois qu'on est justement plus habitués aux différences, peut-être que dans d'autres établissements. Ça nous fait peut-être aussi moins peur.
Avez-vous déjà dû intervenir à une situation des propos discriminatoires entre élèves ?
Alors oui, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Souvent dans des situations où des propos discriminatoires étaient tenus à l'égard d'une différence entre les genres, filles et garçons, mais également dans des situations où le statut économique d'un élève ressortait beaucoup, donc par exemple un élève qui avait des vêtements qui marquaient un peu comme ça une différence entre les revenus des parents. Là, il y a eu aussi souvent beaucoup de moqueries.
Comment traitez-vous la discrimination ?
J'essaye d'amener les élèves concernés à exprimer leurs ressentis et je les questionne sur qu'est-ce qui est si bizarre chez l'autre qui justifie leur moquerie ou sa mise à l'écart. Et de faire utiliser la communication non violente aux élèves pour qu'ils puissent parler de leurs émotions et de leurs besoins.
Pourquoi pensez-vous que certains élèves se font discriminer à cause des vêtements qu'ils portent en lien avec leurs origines ?
C'est de nouveau une question assez difficile. Je dirais que finalement, discriminer, c'est mettre quelqu'un à l'écart à cause de ces différences. C'est surtout aussi une façon de se rapprocher d'un groupe. Et cette cohésion nous rassure. Elle nous donne une forme de confiance en nous, de sentiment de puissance. Donc j'imagine que beaucoup de moqueries, que ce soit de la discrimination ou de la simple moquerie, ça peut provenir de là.
Comment pourrait-on améliorer la situation ?
De plusieurs manières, notamment je pense en parlant ou en demandant conseil lorsqu'on assiste à des situations qui nous semblent anormales, quand on voit un enfant qui est moqué, qui est humilié, laissé de côté. Je pense qu'on peut demander à quelqu'un autour de nous, un adulte de confiance, son opinion ou bien même d'intervenir. Ensuite, je pense qu'en faisant preuve d'empathie, on est tous capables de se mettre à la place de l'autre et d'imaginer ce que nous ressentirions si nous étions à la place de cette personne. Et généralement, quand on arrive à faire ça, après, on a un petit peu moins envie de se moquer. Et puis enfin, l'établissement, pas que l'établissement, mais la société organise des événements où on met à l'honneur en fait la diversité culturelle. On partage les différences plutôt que de les fuir. Et ça, c'est, je pense, une très très bonne manière d'arranger les choses.
C'est la classe, la radio faite par les enfants.
Selon vous, y a-t-il plus ou moins de discrimination dans une école multiculturelle comme la nôtre ?
Je serais bien emprunté pour le dire, mais je pense que dans des écoles où il y a qu'une, il n'y aurait que des Suisses, ça n'existe bien évidemment plus depuis très longtemps, il y aurait tout autant de discrimination. On trouve toujours des raisons pour se moquer des autres. Hein. Dans une école traditionnelle, suisse, il pourrait y avoir des fils de paysans et des fils de notables, par exemple. Et entre les deux, il y a forcément, à un moment donné, de la discrimination qui va être exprimée. La médiatrice l'a dit tout à l'heure, on juge aussi les gens sur l'argent qu'ils gagnent.
Sur la manière dont ils sont habillés.
Sur la manière dont ils sont... On juge les gens en permanence. Et si on juge les gens en permanence, c'est aussi pour une très bonne raison, c'est que en jugeant les gens, on les met dans une certaine place. Hein, on crée une espèce d'ordre qui nous permet d'avoir des relations sociales avec les individus. Donc c'est aussi une manière d'organiser le groupe. Mmh. En fonction de ces caractéristiques. Donc, je pense, les discriminations sont sûrement un peu différentes, mais je dois souligner quand même que la médiatrice qui a été interviewée, elle a dit des choses extrêmement pertinentes. Quand il y a des phénomènes de discrimination, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se parler. Et quand on parle à quelqu'un, tout à coup, on se rend compte que la personnalité est bien plus complexe que ce qu'on avait a priori imaginé, et que cette personne, finalement, elle a une vie comme la mienne. Alors peut-être que ses goûts et ses couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais sur le fond, on va souvent se retrouver dans une discussion. Donc la première arme contre la discrimination, c'est le dialogue. Alors le problème, c'est que tous les humains ne peuvent pas dialoguer entre eux. Et on peut dialoguer au sein d'un groupe. Donc à l'intérieur d'un groupe, on peut gérer cette discrimination. Mais comment gérer des discriminations entre des grands groupes qui ne peuvent pas se communiquer? Et là, on a vraiment des gros soucis.
Maintenant, on va écouter une musique qui s'appelle Mad in Romania. Le chanteur s'appelle Ionuț Cercel.
Waouh, ça c'est bien dit. Allez, on l'écoute.
Da, de ce? De nou. Iubire, iubire, lasă-mă. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau!
Bonjour, nous sommes la classe 8PR3 de Cassandra Aignier.
Nous avons 11 et 12 ans.
Notre école est le collège des Rames à Payerne. Nous sommes dans le canton de Vaud.
Trafic RTS.
Sur l'autoroute Martigny-Vevey, un retard de près d'une demi-heure est à prévoir entre Saint-Trifon et le tunnel de Glion en direction de Vevey en raison d'une surcharge de trafic.
C'est la classe, c'est une émission faite par les enfants. Aujourd'hui, nous recevons une classe du collège des Rames à Payerne. Et c'est toi, Luciana, l'animatrice. Tu nous as dit que vous aviez choisi ce thème des discriminations. Et dans cette deuxième partie d'émission, de quoi allons-nous parler?
Alors, nous allons parler de la religion, car certaines traditions ne sont pas toujours faciles à comprendre. Tune, tu es albanais. Pourquoi tu as choisi ce thème?
Alors moi j'ai choisi ce thème car déjà j'ai vécu plusieurs mécris par rapport à ça, des méchancetés sur ma religion. Mmh. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que tous les jours il y a beaucoup de mécris par rapport à ça dans le monde, dans notre école et autour de notre entourage. Malheureusement j'ai une anecdote par rapport à un ami qui est malade mais du coup il n'était pas là et je me suis dit que je pouvais la raconter. Quand il était plus jeune, enfin même maintenant, ça arrive au jour d'aujourd'hui.
C'est Laïl hein, dont
oui,
tu parles.
C'est Laïl.
Laïl, il est marocain.
Oui, il est
marocain. Qu'est-ce qui lui arrive, lui?
Et lui, quand il était plus jeune, il y a beaucoup de gens qui l'insultaient. Ils lui disaient « Oui, toi, t'as des bombes, ça se voit dans ton sac, tu vas nous tuer avec tes pistolets, t'es arabe, pars, joue pas avec nous, tu vas nous voler des affaires, et des choses comme ça. » Ça arrive beaucoup et c'est très important d'en parler pour moi.
Tu as raison, il est important de parler des religions. Sauf erreur, tu fais le ramadan, c'est pas un petit peu difficile?
Alors oui, chaque année je fais cette entre guillemets fête, le ramadan. Alors ça consiste à ni boire ni manger jusqu'au coucher du soleil. Et alors, ça dépend, c'est difficile par exemple quand tu le fais à l'école ou des choses comme ça.
Ça permet quoi le ramadan? Tu sais l'origine, Thion? Tu sais pourquoi on fait le ramadan?
Alors je suis pas très sûre, mais je crois que c'est pour... par exemple, se mettre à la place des personnes qui n'ont pas les moyens financiers de tout le temps manger, oui. Des choses comme ça. C'est aussi pour se désinfecter le corps et des choses comme ça.
Et il t'est arrivé des anecdotes avec le ramadan?
Alors moi, oui. Un jour pendant le ramadan, normal, comme d'habitude à l'école, quoi. Je fais le ramadan, ni manger ni boire jusqu'au coucher du soleil, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Et du coup, mon prof de maths, il décide de faire un concours. Et le gagnant, il gagne un chocolat. Moi, je le gagne pas, mais par contre, une camarade à moi le gagne. Je viens, je la supplie, s'il te plaît, je peux un peu de chocolat et tout. Et elle décide de m'en donner un bout, un quart. Et du coup, moi, je le mange comme il était bon et tout. Et là, je prends boire. Et je commence à boire. Et pendant que je bois, je me dis, oh, on fait comment? Je suis en ramadan. Et là, ça, tout dans ma tête, ça se mélange et tout. Et vas-y, j'ai cassé mon ramadan. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, quoi. Et toi, Ouko, je crois que t'as aussi des anecdotes?
Oui, j'ai aussi une anecdote à vous dire. Un jour, je suis allé en vacances avec ma famille en voiture en Macédoine, à Skopje. On arrive en Macédoine et j'étais content de voir toute ma famille et mes cousins-cousines. Après, j'ai joué avec mes cousins-cousines et tout d'un coup, j'avais un petit creux.
Et là, tu t'es dit, je vais manger quelque chose. Et t'as mangé?
J'ai mangé et après, je me souvenais que c'était le ramadan.
Et toi, tu t'es fait disputer ou pas?
Non, mes parents, ils ont dit, c'est pas grave, car t'es petit. Et le lendemain, j'ai recommencé à faire le ramadan et ça allait mieux.
Alors, monsieur Hubert, savez-vous pourquoi nous sommes souvent blessés quand on se moque des religions?
Alors, ça peut être grave parce que, en face, quand vous discriminez quelqu'un sur la base des religions, il peut y avoir un sentiment de rejet, d'humiliation. Donc, c'est pas positif de traiter les autres négativement à cause de leur religion, et donc c'est une discrimination comme les autres. Mais ce qu'il faut aussi rajouter, peut-être par rapport à l'islam, c'est qu'il y a aussi une instrumentalisation dans nos sociétés de cette religion, qui est à mettre en lien, bien évidemment, avec les attentats. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des attentats que tous les musulmans sont des terroristes en puissance. Et là, on a effectivement un gros problème, c'est que ce cliché dangereux qui est véhiculé par beaucoup de gens voudrait qu'effectivement, comme tu l'as raconté, derrière chaque musulman, il y a un terroriste. Alors évidemment, ça va pas du tout, ça. Et encore une fois, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est se parler, se raconter, dire qu'on n'est pas comme ça, et que les autres, pareil, disent comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont. Et une des grosses difficultés, c'est que effectivement, c'est pas du tout évident de faire parler des gens qui ont des religions différentes entre eux.
Est-ce que ça ne serait pas plus simple si personne n'avait de religion?
Vous avez vu, c'est les questions des enfants, Nino Hubert.
Oui. Je vais peut-être parler de mon cas personnel, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne crois pas dans une religion. Et c'est pour ça peut-être que je suis devenu anthropologue, parce que ce qui m'intéresse, c'est le phénomène culturel dans son ensemble.
Thion, toi, ta maman, elle t'a raconté comment elle est arrivée en Suisse. C'est une histoire qu'elle t'avait déjà racontée, ça?
Alors, elle m'avait pas totalement tout raconté.
Oui.
Mais oui, bien sûr, elle m'avait déjà raconté son histoire.
Et ta maman, elle vient du Kosovo, hein, c'est ça?
Alors oui, elle vient du Kosovo.
Toi, tu y es retournée au Kosovo de temps en temps?
Tous les ans.
Et entre la Suisse et le Kosovo, toi, tu vivrais où?
Alors moi, je préférerais quand même vivre en Suisse, parce que même si au Kosovo, il y a des quartiers plus beaux que d'autres, des gens mieux payés que d'autres, des choses comme ça, c'est vraiment pas par rapport à ça. C'est vraiment que en Suisse, je trouve que je suis chanceux, parce qu'en Suisse, même si t'as pas les moyens, t'as quand même de la nourriture, tu peux trouver souvent un toit, du travail, c'est pas très compliqué à trouver. Les études, c'est offert, je crois, par l'État, si je me trompe pas, et des choses comme ça. Du coup, je trouve vraiment, je suis très très chanceux de vivre en Suisse. J'ai eu cette chance et que d'autres le n'ont pas. Et du coup, je suis très chanceux de vivre en Suisse. Et je pense que, puisque j'ai ma famille, mes amis en Suisse, et c'est pour ça que je vivrai en Suisse de toute façon. Je pense que je resterai toute ma vie en Suisse.
Et t'as demandé à ta maman si l'arrivée en Suisse avait été difficile.
Alors oui, en effet, chaque déménagement, chaque changement de pays est difficile, et surtout les conditions qu'on est arrivé. Mais avec le temps, tout s'améliore, et puis surtout, c'est à nous de s'intégrer dans chaque pays.
Avez-vous ressenti de la discrimination à votre arrivée ?
Je me rappelle très bien que c'était compliqué l'arrivée à l'école, surtout quand on arrive dans un pays qu'on ne parle pas du tout la langue. Donc automatiquement, on est en retrait, on est isolé. Les gens ont de la peine à venir vers toi. Mais autrement, j'ai pas ressenti ça. J'ai plutôt ressenti une étrangère qui arrive dans un pays qui ne parle pas la langue.
Actuellement au travail, vous sentez-vous discriminée ?
Pas du tout. Je me suis énormément intégrée en Suisse. Je suis indépendante depuis bientôt 12 ans. Donc, je fais un travail qui m'accomplit. Donc, absolument pas.
Avez-vous réussi à vous faire de nouveaux amis en Suisse ?
Bien sûr. Il a fallu du temps, mais tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis énormément entourée. Entre mes amis, mes collègues, ma société, tout va bien.
Quelle loi changeriez-vous en Suisse pour réduire la discrimination ?
Je ne parlerai peut-être pas de loi. C'est aux parents et aux enseignants de parler aux enfants et de leur expliquer que c'est égal où on vit, c'est égal d'où on vient, on est tous pareils et la terre appartient à tout le monde.
C'est la classe. Les enfants s'installent sur RTS Première.
Aujourd'hui encore, Luciana, vous avez des nouveaux camarades qui arrivent à l'école dans votre classe ?
Alors oui, encore aujourd'hui, des personnes viennent en Suisse. Par exemple, Georgie et Nicoletta vont nous parler de leur arrivée récente en Suisse. Je précise que Georgie vient de la Macédoine et que Nicoletta de la Roumanie.
Nicoletta, tu peux nous raconter ton arrivée en Suisse, c'était comment ?
La première fois quand j'arrivais ici en Suisse, la ville de Payerne, c'était bizarre.
Tu avais quel âge, Nicoletta ?
J'avais 9 ans et c'était normal parce que c'était la ville bizarre. C'était pas.
C'était une ville bizarre.
Ouais, un peu.
Mais c'était surtout une ville où on parle pas ta langue.
Oui.
C'était difficile, ça, le français. Hein.
Oui, j'avais beaucoup de difficultés en français. Et en plus, après, quand j'allais à l'école, j'ai pas tellement compris ce que la maîtresse m'a dit. Et après, étape par étape, j'ai commencé à devenir un plus mieux en français.
Je te confirme, tu parles bien français maintenant.
Oui.
De la Roumanie, il te manque quelque chose ?
Oui, il me manque mon maîtresse, mon prof de sport, mes amis, ils étaient tellement gentils. Et en plus, mon grand-mère. Et qu'est-ce que je aime le plus là-bas, c'est le chocolat de Roumanie, parce que moi.
Comment ça, tu plaisantes? C'est pas le chocolat suisse.
Non, parce que là-bas en Roumanie, j'ai un chocolat que j'aime beaucoup, c'est avec un chocolat de fraises, et là de crème de fraises dedans.
Ouf.
Et ça, c'est mon préféré.
Et ça te manque.
Oui.
Merci beaucoup, Nicoletta. Et toi, Georgie, comment ça s'est passé
pour
toi ?
Bonjour, je m'appelle Georgie, j'ai 11 ans et je suis arrivée en Suisse il y a 2 ans. À mon arrivée en Suisse, j'ai vu des choses magnifiques. J'adore les Alpes, elles sont très belles. J'aime bien aussi le lac. Ce qui me manque le plus, ce sont mes amis. Ce que je trouve difficile en Suisse, c'est le français, mais maintenant je sais comment on parle. J'ai bien été acceptée par cette classe et mes camarades. Comme je connais l'anglais, je n'ai pas essayé tout de suite de parler français.
Mais ça fait combien de temps, pardon, que tu es là ?
2 ans.
2 ans, d'accord. Mais tu parles déjà très bien français quand même, hein ?
Ouais. Je suis macédonien, mais dans mon opinion, la Suisse est plus belle.
Eh ben voilà. Luciana, est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter un peu de musique ? Comme c'est vous qui avez choisi la musique, la première venait de Roumanie. Celle-ci, elle vient d'où ?
Elle vient du Maroc.
Tiens, il va venir nous dire le titre de la chanson.
Maintenant, on va écouter une musique qui s'appelle Tek Tek. Le chanteur s'appelle Only Dead et Distinct.
شي ما جانا تك 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 اها تك 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 يا بحال شي ما جانا بينك وبيني صار انا عيني زينها نار استاني يا لالا عيني فيك اوه مو غيا توا بيبي اوه بابا بابا ناري هبلتني انا شفتك هدي سيمانا قلبي تك تك بحال شي مكانة ويلي ويلي هذه بلدني يا ماما
شي ما قالنا تك 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 اها تك 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 يا بحال شي ما قالنا
Vite et vite, c'est quoi la suite? Le temps y passe, tic et tic. C'est toi qui me rends sick et sick. Tous les jours, everyday, qui c'est qui? Je connais la zikizi.
Son cœur est noir comme l'océan. J'irai nager même si j'ai pas pied. Palpé, j'aurais tant de palpé. Bébé m'attend sur le côté. Elle m'attend sur le côté. Bébé m'attend sur le côté. Plus sur les radars, pardon, là je peux pas voter.
Tic et tic, tic et tic, tic et tic, tic et tic.
Pas mal, un peu de soleil en plein hiver, le soleil du Maroc sur RTS Première. Grâce à cette classe de Payerne qui a choisi des disques, qui a choisi de nous parler du sujet de la discrimination, ils viennent du Collège des Rames, ils ont 12 ans. On n'a pas encore donné, Luciana, le nom des profs.
Nous avons Matamini, notre prof principal, et Sébastien Vermeau.
Voilà, qui vous ont bien aidé à préparer cette émission sur la discrimination. Alors, on a parlé de plein de choses, et maintenant, vous souhaitez qu'on parle du handicap.
En étudiant les différentes formes de discrimination, nous avons aussi pensé à l'handicap. Léna, que peux-tu nous dire sur ce sujet ?
On a choisi de parler du handicap, car on voulait voir s'ils étaient plus ou moins discriminés. Dans notre école, nous avons deux personnes avec un handicap. Ils sont autistes. Nous en avons un qui vient avec un chien. Nous en avons mené une petite enquête.
Deux élèves de la classe, Alois et Baptiste, font de la musique avec une camarade non-voyante. Ce sont Mélina et Léna qui sont allées l'interviewer. Comment cela s'est-il passé, Léna ?
Avec Mélina, nous sommes allées interviewer Justine. Justine, qui est non-voyante de naissance, elle a fait une école comme les autres, elle est maintenant au gymnase. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons été surpris par son autonomie. Comme première question, nous lui avons demandé si elle avait déjà vécu des discriminations.
J'ai pas vécu de discrimination, en fait. En fait, j'ai toujours été bien accompagnée, j'ai jamais été laissée trop seule, j'ai toujours ma famille qui ont été un peu dures des fois avec moi pour pas que je me laisse faire. Ils m'ont toujours dit, oui, on a été dures, mais au moins t'as réussi à faire ça, ça. Non, du coup, j'ai pas vraiment eu de discrimination. Pour ma famille, ça a pas été évident quand même. Par exemple, ma grand-maman. En fait, elle mettait presque sur la faute de ma maman. Je sais pas comment dire, mais finalement, au fil du temps, elle s'y est faite.
Comment les personnes t'acceptent-elles dans la vie de tous les jours ?
Ben, les personnes, elles m'acceptent bien, elles sont très curieuses. Parce que c'est vrai que pour certains, c'est un peu comme vous, ils savent pas, ouais, mais en fait, elle fait comment pour écrire, etc.
Quelles sont les situations où tu t'es déjà sentie à part ?
Les dernières années où j'ai été à Europa Park. Parce qu'en fait, c'est des choses que j'aime faire. Tout ce qui est attraction et tout. Il y a quelqu'un qui est arrivé et puis qui a dit « Ouais, mais en fait, elle est aveugle et tout, elle peut pas faire. » Et puis, en fait, ben, j'avais ma maman qui m'accompagnait. Et elle disait « Mais oui, moi, je suis prête à signer une décharge. » Et puis, ils ont dit « Non, mais elle a pas le droit de faire même les spectacles, etc. » Et du coup, oui, en fait, avec ça, je m'étais quand même un peu sentie à part parce que je trouvais ça pas normal. Alors qu'après, ils mettaient quelqu'un en chaise roulante sur l'attraction. Puis ils ont dit aussi que en fait si c'était éteint que je pouvais pas sortir et tout. Puis en fait ma maman elle était là ouais mais en fait ce serait la première à ressortir s'il y avait du noir complet.
Tu as l'impression que c'est de la discrimination ?
Ouais, j'avais l'impression que c'était un petit peu de la discrimination, mais j'ai appris qu'ils ont quand même mis quelques infos pour dire que s'il y a des choses qu'on peut faire, on peut, et s'il y a des choses qu'on peut pas faire, ben on peut pas.
Que penses-tu des élèves et des enseignants de ta classe ? Sont-ils compréhensifs ?
Oh oui, alors j'ai la chance d'avoir des enseignants et des camarades assez compréhensifs. Ben là, comme j'ai vécu un redoublement, en fait, je trouve que cette année, c'est mieux que l'année passée. Puis qu'il y a quand même certains profs, en fait, qui me font pas forcément tout faire. Il voudrait que si, par exemple, il y a des images, je sais pas, un exercice d'anglais, par exemple, où il faut associer des phrases avec des images, ma prof, elle va dire, t'as pas besoin de faire celui-là.
Justine, sais-tu ce que tu veux faire plus tard, quand tu devras choisir un métier ?
Plus tard, j'aimerais être éducatrice spécialisée ou assistante sociale. J'ai fait un stage à la fin de ma deuxième année, du coup avant que je redouble, à l'EMS à Grange. Et ça m'a pas mal enrichi, c'était super, j'étais en animation. J'ai accompagné les gens, je leur ai fait des concerts aussi du coup. Je pense pas que ça va me mettre à l'écart, je pense juste qu'en fait il y aura tout simplement des choses à adapter. Par exemple, si je vais en EMS, ben, tous les matins il faut amener le courrier. Donc je pense que c'est des choses où quand on voit pas forcément à qui s'adresser, ben, je pense qu'il faudrait être deux pour le faire.
Comment réagirais-tu si tu étais discriminée par rapport à ton choix du travail ?
Pour moi, je dis toujours que tout est possible, en fait. Je comprendrais pas tellement, j'aurais peut-être un effet surprise et de l'incompréhension.
C'est la classe.
Monsieur Hubert, est-ce que les personnes non-voyantes se débrouillent aussi bien que Justine ? Ou existe-t-il de la discrimination envers les personnes non-voyantes ?
Je pense que pas tous les aveugles se débrouillent de la même manière. Tout dépend évidemment des aides que l'environnement, l'entourage va leur apporter. Et là, en l'occurrence, l'histoire que tu viens de nous raconter montre que si une personne handicapée, aveugle, en l'occurrence, est aidée par son entourage, ben, elle arrive à faire pas mal de choses. Mais elle peut pas y parvenir toute seule. Et donc, ça nécessite une solidarité de des personnes qui habitent avec elle, de sa famille, de son entourage, de l'école, que tout le monde fasse un effort. Hein, c'est clair, c'est pas aussi évident qu'un enfant tout à fait ordinaire pour dire des choses comme ça. Mais ce qui est aussi à souligner, c'est que pour les autres, c'est une sacrée expérience de vivre avec une personne qui a un handicap.
Il existe différents types d'handicap, c'est juste, Mélina.
Oui, bien sûr. Par exemple, Alice va nous parler de son cousin qui a des complications à s'exprimer. Il va aussi nous parler de ce qu'il ressent quand il est avec lui et qu'il se fait discriminer.
Mon cousin a une maladie qui impacte sa voix. J'ai l'impression qu'il ne se douche pas trop. Il ne se coupe pas bien de lui et il ne se coupe pas les cheveux. Pour son âge, il est assez grand. Des fois, il a des réactions hyper colériques, donc ça veut dire qu'il crie et ensuite il part et on ne sait pas ce qu'il va faire. Comme il est dans une école spécialisée, il a plus de copains qu'avant quand il était dans une école normale.
Monsieur Hubert, que pensez-vous du handicap du cousin à Alois ?
Des individus qui ont des handicaps psychologiques, neurobiologiques profonds peuvent être à l'origine de dysfonctionnements assez importants d'un groupe. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est correctement gérer les situations. Et typiquement, avec l'école inclusive, on cherche à intégrer le maximum d'enfants ayant des handicaps de type psychologique, moteur ou autre. Mais il y a une certaine limite, parce que au-delà d'un certain handicap, le fonctionnement normal de la classe ne devient plus possible. Donc c'est normal que certaines personnes, enfin normal, malheureusement, certaines personnes souffrant d'un handicap psychologiques doivent être mises dans une institution.
C'est la classe. Revient dans quelques secondes, le temps d'un détour par les routes.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Genève, un véhicule est tombé en panne dans le tunnel de Confignon en direction de Lausanne. Un bouchon s'est formé à l'approche de cet ouvrage.
On va écouter de la musique.
Alors là, on va écouter Habibi, la musique est albanaise. Alors, les personnes qui chantent cette musique s'appellent DJ Mio et Rikichi et Bardan.
Tu t'en voles, je t'intime, je t'intime, Habibi. Tu t'en voles, je t'intime, je t'intime.
C'est souhaite un peu de soleil dans ces jours gris de fin d'année. C'était Thionne qui nous parle de la musique, c'est toi Luciana, l'animatrice de notre émission. On parle de discrimination, on a ouvert des portes, on en a refermé certaines. Et la suivante va parler de quoi ? Dis-nous tout.
Alors la suivante porte va parler du genre. Je vais tout de suite passer la parole à Maline qui va nous expliquer pourquoi nous avons choisi cette thématique.
Nous allons parler du genre parce que...
Parce que toi, t'es une fille, et puis parce que parfois, est-ce que t'as eu l'impression que les gars, ils étaient pas sympas avec toi ?
Oui, il y a beaucoup de ça dans notre établissement à Payerne, et aussi parce qu'une fois, quand j'étais plus petite, un garçon m'a dit, quand je passais le balai, c'est bien, continue, de toute façon, c'est ce que tu dois faire.
Toi, tu allais voir qui pour parler de discrimination de genre, puisque c'est ton sujet, Almaline ?
Alors, je suis allée voir Malika, qui étudie au gymnase de Payerne et qui fait du foot. Je voulais l'interviewer parce que du coup, elle a vécu des discriminations dans le foot.
Et de lui demander si elle a déjà été discriminée.
Alors oui, j'ai plusieurs situations où j'ai été discriminée par rapport à mes collègues masculins.
Peux-tu nous expliquer comment cela ça s'est passé ?
Alors, il y a différents exemples. Par exemple, quand j'étais plus petite, je jouais dans une équipe avec des garçons en junior. Et c'était vraiment bien parce que pour le coup, j'étais très bien intégrée, les entraîneurs aussi. Mais c'était plutôt quand, lors des matchs, quand je jouais contre des équipes où c'était des remarques des joueurs adverses qui disaient par exemple « ça va être facile parce qu'il y a une fille dans l'équipe », etc. Ce genre de remarques. Et ensuite, quand j'ai pu intégrer une sélection féminine, à ce moment-là, les inégalités se sont plus ressenties par rapport aux autres équipes masculines du même club. Par exemple, lors d'un match que nous devions jouer à Zurich, on était allé dans le même quart qu'une équipe masculine junior. Et arrivé là-bas, on avait du retard. Et en fait, on a d'abord déposé les hommes qui jouaient après nous, ce qui nous a mis encore plus en retard. Et pour finir, on est arrivé 5 minutes avant le coup d'envoi. Ce qui veut dire qu'on a dû se changer, s'échauffer dans le quart. C'était très compliqué. Et en fait, ce qui est malheureux avec cette situation, c'est qu'il y a des filles qui se sont blessées justement parce qu'on n'a pas pu s'échauffer correctement. Et c'est vraiment du sexisme puisque les hommes jouaient après nous, donc on aurait eu le temps de d'abord nous déposer. Un autre exemple, en fait, qui est aussi lié aux moyens qu'on met, on a eu la chance de pouvoir faire des camps d'entraînement. Mais en comparaison avec les hommes, notre camp d'entraînement, en fait, il s'est fait sur un week-end à Lézin. Alors que les équipes masculines, elles, allaient pendant une semaine au sud de la France. Donc c'est vraiment des moyens qui sont différents, alors qu'on paye les mêmes cotisations, etc. Donc pour ça, c'est vrai que c'est des exemples assez parlants.
Qu'as-tu ressenti à ce moment-là ?
Du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai ressenti beaucoup d'injustice. Et donc à ce moment-là, toute l'équipe, on s'est senti pas respectée. Et aussi, ça nous donne encore plus envie de pouvoir faire valoir nos droits, donc de continuer à se révolter, à dire quand il y a des injustices comme ça, parce qu'on a vraiment envie que ça change et puis de plus revivre les mêmes choses, en fait.
Quel est ton avis par rapport à ce qui s'est passé ?
Par rapport à ce qui s'est passé, je trouve que c'est vraiment des exemples révoltants. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes opportunités. Et ça donne encore plus de courage et d'envie, en fait, de se révolter et de faire valoir nos droits. Que s'il y a des injustices, il faut les dire. Faut oser parler. Même si c'est des adultes, en fait, ils n'ont pas toujours raison. Et le système qui est en place, il est aussi fait pour évoluer. Et c'est justement en parlant, en communiquant, qu'on peut changer cela pour que le monde soit plus égalitaire. De le dire plus haut, du coup, à notre entraîneur, etc., pour que lui-même puisse le rapporter aux dirigeants. Après, c'est sûr que c'est aussi des fois, on a l'impression d'être impuissant à notre échelle, mais en fait, il faut penser qu'on est aussi plus fort quand on est ensemble et quand on est une équipe comme ça féminine. Après, les solutions justement plus concrètes, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que, comme j'ai dit, c'est pas nous qui avons le pouvoir vraiment.
Si tu avais le pouvoir, tu ferais quoi ?
Alors si j'avais le pouvoir, en fait, je pense que je donnerais les mêmes moyens, en tout cas au niveau junior, aux hommes et aux femmes, en fait, qu'il n'y ait pas de distinction. Et aussi, un autre point que je trouve intéressant, c'est de pouvoir mettre dans les équipes féminines des entraîneuses féminines aussi. Enfin, si on a la possibilité de pouvoir mettre un homme et une femme, c'est vraiment parfait. Parce que personnellement, là où je me suis le mieux sentie, où j'ai pu le mieux communiquer, c'était aussi quand il y avait la chance de pouvoir avoir une femme qui nous entraîne et qui comprend aussi ce milieu-là, parce que c'est vrai que le football féminin et masculin, il y a quand même des différences, et c'est vraiment un enrichissement de pouvoir être entraînée par des gens qui ont pratiqué du foot et qui sont des femmes.
C'est la classe.
Monsieur Huber, y a-t-il des discriminations ailleurs que dans le sport ? J'ai entendu parler des discriminations dans le salaire, que les femmes étaient moins payées que les hommes.
Tu as tout à fait raison. Il y a des discriminations un peu dans tous les domaines, dans tous les sports, dans tous les métiers. Et là aussi, les choses changent progressivement. Il devient plus ordinaire, si je peux dire ça comme ça, qu'une fille fasse, par exemple, de la mécanique.
Selon vous, comment pourrait-on améliorer la situation ?
D'abord, ça vient des individus, puis aussi la société. Hein, comme pour les autres discriminations, à un moment donné, il faut prendre des dispositions pour que ces discriminations ou cette ségrégation soient prises en charge, discutées, qu'on ait des endroits pour en parler, qu'on en parle entre les personnes concernées. Et donc, c'est une prise en charge aussi collective qui est très, très importante pour amoindrir ou faire disparaître des phénomènes de ce type-là, comme le sexisme ou toutes les autres discriminations. C'est un travail collectif. Et il faut que la société ait envie de le faire, parce qu'on voit que dans certaines sociétés, on est en train d'aller exactement dans l'opposé.
Baptiste, toi, t'as été voir tes copains pour leur demander quoi à propos, justement, des rapports filles-garçons et tout ça? Qu'est-ce que tu leur as demandé à tes copains?
Je vais poser des questions sur des blagues sur les filles pas si drôles.
Ah, parce qu'il y en a des blagues qui tournent.
Malheureusement, oui. Connais-tu des blagues sur les filles? Si oui, lesquelles?
Vous savez pourquoi les filles avaient des muscles à la préhistoire? Parce que la vaisselle, elle est en pierre.
Comment laisser plus de liberté à une femme?
Agrandir la cuisine.
Penses-tu que ces blagues peuvent blesser les filles?
Ouais, parce que ça se fait pas de dire ça, ça se fait pas.
Bah ouais, ça peut blesser tout le monde, hein, même des garçons.
Que pensez-vous de ces blagues?
Je trouve que c'est inadmissible et que les filles, c'est pas fait pour faire la boniche.
Moi, je trouve que c'est vraiment pas sympa pour les filles.
Bah, en soi, faut arrêter de dire, faut arrêter de nous classer. Vous, vous allez là, et vous, vous allez là. As-tu des idées pour que ces blagues s'arrêtent?
Qu'on fasse un groupe pour que, à chaque fois qu'il y ait un gars qui discrimine les filles, bah, qu'on s'occupe de lui, quoi.
C'est la classe. La radio faite par les enfants.
C'est pas facile de parler dans un micro. Wow, moi je trouve ces blagues choquantes. Et vous, monsieur Hubert, que pensez-vous?
Alors, choquante, oui, mais aussi un peu drôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit des choses comme ça, elles font rire parce qu'on sait très bien que ça provoque une espèce de malaise. Hein, que c'est un cliché et qui ne correspond pas à une vérité. Donc, moi, je suis pas du tout pour supprimer les blagues sexistes. Ce serait très difficile à faire. Mais par contre, à faire prendre conscience qu'en disant des choses comme ça, on dit des contre-vérités qui nous paraissent tellement absurdes que ça nous fait rigoler.
Pour terminer cette émission avec joie, Colosse va nous donner quelques idées et comment il fait pour ne pas être discriminé. Maëva va nous raconter son hobby assez particulier, mais malgré cela, elle ne se fait pas discriminer. Et Baptiste va nous parler de la fête multiculturelle de notre établissement. Colosse, peux-tu nous raconter comment tu fais pour ne pas être discriminé?
Moi, je pense parce que je suis gentille ou j'énerve personne. Et oui, moi, j'ai vu des personnes se faire discriminer, mais je savais pas c'était quoi la discrimination.
Comment ils ont réagi quand ils se sont fait discriminer? Tu as vu de la tristesse? Tu as
oui,
vu c'était compliqué?
Moi, j'avais cru qu'ils rigolaient, mais après, ils ont commencé à pleurer.
Maintenant, Maëva va nous raconter son hobby assez particulier.
Ça fait 2 ans que je fais du yodel.
Pourquoi fais-tu du yodel?
Car ça me rend heureuse. Je le fais plutôt le soir, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bruit le soir. Du coup, je peux mieux me concentrer.
Est-ce que tu te sens discriminée depuis que tu fais du yodel?
Oui, car c'est plutôt les personnes âgées qui pratiquent du yodel. Et il y a déjà un prof de musique qui nous demandait nos musiques préférées. Puis moi, j'ai dit que j'aimais le yodel. Puis lui, il m'a dit que cette musique, c'est pas pour les vieux. Ça m'a fait rire. J'ai rien répondu.
Comment tes proches réagissent quand tu fais du yodel?
Il y en a qui trouvent ça super et d'autres qui aiment pas du tout. Par exemple, ma maman, elle déteste ça. Mais du coup, je ferme ma porte, puis des fois, elle me dit « tu chantes un peu trop fort ».
Que penses-tu quand les autres disent que le yodel, c'est pour les vieux?
Je pense que c'est totalement faux. parce que il y a des enfants ou des plus jeunes qui peuvent pratiquer.
Est-ce que c'est dur de faire du yodel? Tu peux nous expliquer comment en faire?
Oui, il faut casser sa voix, il faut passer de voix de tête à voix de poitrine. En fait, c'est il faut faire yo comme ça. Comme ça à peu près.
C'est la classe. Les enfants s'installent sur RTS Première.
Maintenant, nous allons écouter Maëva sur son EBI.
Papa, papa, la papa, papa, la papa. Oh la la la, yo la la, yo la la, yo la la, yo. Yo la, 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 yo la. Oh la la la, yo 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 la la. Ah la la la, lo 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 la. Oh la la, lo la, lo la, lo la, lo la, lo la. Oh la la la, lo 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 la. Oh la la la, lo 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 la. Yolala, yolala, yolala.
Et pour la Maëva timide, merci. Bravo Maëva. On va se quitter avec quoi? Avec une bonne idée? Qu'est-ce que tu penses, Luciana? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme bonne idée sur cette question du vivre ensemble?
Alors Baptiste va nous parler de l'occasion qu'on a dans notre école. Nous allons faire une fête multiculturelle.
Au Collège des Rames à Payerne. Oui, ça va se passer quand? Dis-moi, Baptiste.
Ça se passera le 22 mai 2025.
Et vous allez faire quoi? Une grande fête?
Grande fête, oui, dehors, sous le beau soleil de la Broye, je tiens à préciser.
Et il y aura quoi dans cette fête?
Il y aura 12 sculptures, 12 pays différents qui proposeront chacun des entrées, des desserts,
d'accord,
des danses et des habits typiques. Nous aurons par exemple le Venezuela, le Maroc, le Portugal, l'île Maurice ou l'Érythrée, un pays d'Afrique. Et vous, Monsieur Hubert, que pensez-vous de faire une fête multiculturelle?
Ah, moi je pense que c'est une très très bonne idée. C'est une très bonne idée pour faire se rencontrer les gens. Beaucoup de villes, municipalités organisent aussi des fêtes de ce type-là. Alors moi je mettrais juste un tout petit bémol, parce qu'il ne faut pas, comme on dit dans le jargon des anthropologues, essentialiser les gens, les renvoyer systématiquement à leur origine. Alors bien sûr, c'est sympathique de manger des nourritures de différentes régions du monde, mais n'oublions pas que c'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'on ne peut pas manger quelque chose qui vient d'ici, c'est pas parce qu'on s'habille avec une tenue folklorique que tout le monde le fait.
Le risque, c'est que ça cloisonne un peu tout le monde.
Voilà, ça remet les gens dans des petites cases, c'est peut-être ça qu'il faut essayer d'éviter. Mais en même temps, je crois que c'est toujours très sympathique, les fêtes de ce type-là. On entend différentes langues, une palette de diversité. Pour ça, c'est déjà une excellente idée.
Nous arrivons gentiment au terme de cette émission. Et ce que je retiendrai, c'est que parler des différences peut aider d'éviter les conflits. Par exemple, Justine vit très bien son handicap et n'a pas peur d'en parler. Lévi se fait encore trop discriminer, mais malgré nos différences, nous pouvons vivre en paix et en harmonie.
Vous avez fait sacrément bien le boulot. Avec le nom de vos deux profs, on rappelle.
Il y a Sébastien Vermeau et Madame Inny. Nous espérons que vous avez bien aimé notre émission. Nous voulons remercier Ninon Huber pour sa disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Également Tania et Florence qui nous ont expliqué comment faire une émission sans stresser et aussi remercier les personnes qui ont été interviewées et encore les techniciens pour rendre cette émission possible. Enfin, remercier les profs de nous avoir embarqués dans cette aventure unique. Les meilleures salutations de la classe 8PR3 et une bonne fin de journée et une bonne année.
Et merci les enfants et merci Ninon Hubert. À très bientôt.
Infotrafic RTS.
Dans le Jura vaudois, les conditions de circulation sont localement difficiles en raison de fortes chutes de neige. L'école de la Givrine et du marché rue sont enneigées. Sur l'autoroute Martigny-Vevey, une surcharge de trafic provoque un retard d'une demi-heure entre Saint-Trifon et le tunnel de Glion en direction de Vevey. Et sur l'axe Chiasso-Lucerne, des colonnes s'étendent toujours sur 9 km entre Faido et l'entrée sud du tunnel du Gothard, ce qui représente une attente d'1h30 environ en direction de Lucerne. Enfin, sur la ligne de ferroutage de la Fourca, l'attente à la gare de chargement d'Oberwald s'est réduite à 1h30.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
C'est la classe, la radio faite par les enfants.
L'heure avec RTS Première.
Sur RTS Première, il est 17h.